L'invité du jour.
Sujet grave mais nécessaire, nous parlons aujourd'hui des abus dans l'Église. Un sujet bien présent dans l'actualité avec entre autres les accusations d'abus à l'encontre du prédicateur Guillaume Bourin ou encore les accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre. Ce sujet nous concerne tous, quelle que soit notre dénomination religieuse. J'accueille aujourd'hui Marc Dereux, président de la commission de conseil et de suivi de Stop Abus, un service d'écoute créé à l'initiative du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, pour les personnes victimes ou témoins de violences sexuelles dans les églises évangéliques. Bonjour Marc.
Bonjour Valériane.
Pour commencer Marc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend par abus et comment ils peuvent se manifester dans le cadre de l'église ?
Alors, par abus, on peut désigner en tout cas tout acte et toute attitude aussi qui vise en fait à profiter d'autrui en faisant peser sur cette personne une contrainte morale, qui peut être aussi spirituelle, ou une contrainte physique. Et en fait, lorsqu'on parle d'abus, on évoque les personnes qui ont un ascendant sur autrui et qui profitent de cet ascendant. Et du coup, abuser de cette autorité comme son pouvoir, c'est-à-dire pour se servir de l'autre, en vue de se servir, elle-même, et d'assouvir ainsi ses désirs, voire ses pulsions. C'est tout le contraire, en fait, de ce qui est vraiment l'autorité. Donc on peut le voir à travers des actes au niveau moral, au niveau psychologique. On peut avoir un ascendant sur quelqu'un aussi, ne serait-ce que spirituellement aussi, en lui imposant, la prière, alors que peut-être cette personne ne le veut pas, ou en dictant sous couvert de textes bibliques, de révélations spirituelles, de dicter à cette personne des attitudes, des comportements, voire des choix de vie. Là, il s'agit d'abus, en fait, et ça va jusqu'aux violences qui sont les violences physiques et les violences sexuelles, où on va profiter ainsi de l'ascendant qu'on peut avoir sur une personne, alors qu'on en est responsable, c'est-à-dire qu'on a à répondre de nos actes vis-à-vis de cette personne et d'abuser de cette manière, en tout cas, de l'autorité qui nous est confiée.
Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui pourraient nous alerter et indiquer qu'une personne est victime d'abus ?
Alors, lorsqu'il y a un lien beaucoup trop marqué, avec une sorte de soumission, sans esprit critique, par rapport à ce qui peut être dit par telle et telle personne, et qu'on va prendre comme argent comptant, et de suivre presque aveuglement. Donc il y a là une sorte de manipulation qui s'est mise en place. Dès qu'il y a une dépendance, en fait, une dépendance qui devient malsaine, où l'autonomie de la personne est niée, il y a signe, pour moi en tout cas, d'abus sur ces personnes.
Vous le disiez Marc, les abus sont généralement pratiqués par des personnes ayant une position d'autorité dans l'église. Est-ce qu'il est important de changer de regard sur ces personnes, de les désacraliser d'une certaine manière ?
Alors je pense qu'il faut désacraliser l'autorité d'abord, ce qu'on entend par autorité, qui n'est pas synonyme de pouvoir. La notion d'autorité, et c'est celle que nous a montré en tout cas l'exemple parfait de notre Seigneur Jésus, la notion d'autorité c'est d'être au service des autres et non pas de se servir des autres. Et la notion d'autorité c'est aider à faire croître l'autre aussi. Et donc pas justement à la baisser. Et ça, c'est peut-être le regard qu'on doit avoir sur l'autorité qui n'est pas un pouvoir pour décider à la place des autres, mais pour aider les autres dans leurs décisions. Ça va changer du coup notre regard aussi sur ceux qui ont des responsabilités, non pas pour les regarder de coin, mais peut-être pour les aider aussi et les encourager à vivre pleinement leurs responsabilités. On voit un des signes aussi, en tout cas pour nos communautés, c'est lorsque il y a une sorte de gouroutisation, c'est-à-dire que c'est entre quelques personnes, voire une seule personne, qui exerce le pouvoir dans une communauté. Il y a là danger en tout cas, et donc l'importance aussi d'une collégialité, de travailler aussi en collaboration avec d'autres.
Si les abus peuvent toucher les adultes au sein de l'Église, les plus vulnérables peuvent également y être confrontés, notamment les enfants. Nous en parlons en deuxième partie d'entretien. À tout à l'heure, Marc.
À tout à l'heure.
Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com/replay. L'invité du jour.
Dans la première partie de cet entretien, nous avons vu comment les abus peuvent toucher les adultes au sein de l'Église. Nous allons à présent nous intéresser aux abus envers les enfants ainsi qu'aux moyens d'en parler et d'agir face à cette situation dramatique. Je suis toujours avec Marc Dereux, président de la commission de conseil et de suivi de Stop Abus, une ligne d'écoute pour les personnes victimes ou témoins de violences sexuelles dans les églises évangéliques. Marc, les enfants étant particulièrement vulnérables, quel type d'abus peuvent les toucher dans le cadre de l'Église ?
Alors, il y a différents types d'abus, effectivement, qui peuvent toucher les mineurs. Des abus de pouvoir, des abus de faiblesse, des abus d'autorité, des abus de confiance. C'est-à-dire qu'il y a un lien tellement fort et étroit qu'il y a risque de manipuler aussi l'enfant pour lui faire faire tout et n'importe quoi. Sans esprit critique, sans recul. Bien sûr, il y a toutes les formes aussi d'harcèlement qui peuvent exister. Alors, de la part d'adultes, mais parfois, il peut y avoir entre les enfants eux-mêmes des cas de harcèlement, voire d'agression, voire plus grave aussi de viol, que ce soit au niveau de l'église ou dans des structures aussi qui accueillent les mineurs. Il y a différents types en tout cas d'abus qui peuvent être mis en avant, des risques aussi intrinsèques aux mineurs, tels que les pensées, les actes suicidaires, on parle de la fugue, l'automutilation. Donc dans l'église, il y a toutes ces formes-là qui peuvent exister aussi et pour lesquelles il nous faut avoir une vigilance accrue pour protéger en tout cas les plus vulnérables et les enfants aussi en particulier.
Comment parler justement de ces abus aux enfants, que ce soit pour les prévenir ou les aider à se confier ?
Alors, c'est toujours très, très délicat parce qu'il ne faut pas forcer ou entrer dans une logique d'imposition, mais plutôt d'ouverture. Essayer en tout cas d'être le plus attentif pour repérer les signes qui trahissent une situation de danger.
C'est-à-dire
des comportements qui sont perturbateurs, l'isolement, le mutisme, une démotivation, des marques physiques aussi, des gestes qui peuvent être déplacés aussi, vis-à-vis aussi des autres enfants. C'est là autant d'indices, en tout cas, qui révèlent un mal-être chez l'enfant. Et donc, de pouvoir interroger, de dire, tiens, voilà, j'ai l'impression en tout cas que ça va pas, est-ce que tu veux me dire de quoi il s'agit ? De ne pas être trop intrusif, mais de laisser des questions ouvertes et d'avoir une question peut-être générale au départ lorsqu'on a constaté des signes de mal-être chez le mineur.
Que faire concrètement, Marc, si on a connaissance d'une situation d'abus dans l'église ?
Alors, la première action, qui est d'ailleurs une obligation selon la loi, c'est celle de signaler toute information préoccupante concernant un mineur et de le faire aux autorités compétentes. Que ce soit prouvé ou non, mais qu'on a connaissance en tout cas d'une situation, soit un mineur qui nous fait part en tout cas d'une situation d'abus et de violence à son encontre, physique, sexuelle, c'est de notre responsabilité et même de notre devoir légal de le signaler. Et pour ce faire, on peut contacter soit le service Allo Enfance en Danger, le 119, ou même la CRIP, qui est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Si c'est au sein de l'Église, agir par rapport à la gravité des faits, en tout cas, pour prévenir la direction pastorale, signaler le fait aussi aux autorités de police, de gendarmerie, le cas échéant. Donc il faut être réactif aussi pour ne pas laisser en place, j'allais dire, de potentiels agresseurs qui pourraient continuer en tout cas, et donc de mettre à l'écart toute personne qui serait susceptible d'avoir commis des actes répréhensibles vis-à-vis d'un enfant.
Si des souvenirs d'abus vécus ou observés dans l'enfance refont surface à l'âge adulte, quelle démarche on peut entreprendre ? Est-ce que juridiquement il y a prescription ?
Alors, il n'y a pas prescription pour tout acte, en tout cas, qui a été commis sur une personne mineure au moment des faits. La prescription est de 30 ans. Il faut être prêt, de toute manière, à dénoncer les faits. Après, la justice elle-même fera son travail d'enquête, mais ça ouvrira, en tout cas, un dossier qui permettra de savoir si l'agresseur a continué ou non ses méfaits. Une personne pour laquelle il y a peut-être prescription de 30 ans, peut très bien en tout cas dénoncer ces faits et l'agresseur en fait a continué et dans ce cas il se trouve qu'il y a une personne qui a été agressée aussi de la même manière mais il y a 10 ans. Dans cette situation, les faits ne sont pas prescrits.
Marc Dereux de Stop Abus, merci beaucoup d'avoir été mon invité sur Phare FM.
Avec plaisir, Valérie, à bientôt.
Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com/replay.